Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, sommes-nous inégaux face au cancer ? C'est un droit qui était réclamé de longue date par les anciens malades du cancer, un droit à ne pas être surtaxé par son banquier ou par son assureur lorsque l'on a été victime par le passé de la maladie. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a annoncé aujourd'hui que ce droit à l'oubli concernerait 5 types de cancers ainsi que l'hépatite C, avec un délai tout de même de 1 à 10 années après la fin des traitements. Mais les inégalités entre malades et bien portants ne sont pas les seules induites par le cancer. Selon votre âge, votre lieu de vie, votre sexe ou votre métier, vos probabilités de développer mais aussi de survivre à un cancer ne sont pas les mêmes. Sans surprise, les études montrent que les classes populaires sont plus vulnérables face à la maladie. D'autant que si le cancer est le reflet des inégalités de la société, il a aussi la capacité de les accentuer. Et ce, malgré un système de prise en charge en France parmi les meilleurs du monde. Donner les mêmes chances à tous de prévenir et guérir, c'est l'un des objectifs du 3e plan cancer du gouvernement, actuellement en cours. Pourtant, les injustices persistent. Sommes-nous inégaux face au cancer ? C'est notre sujet du jour. Un sujet dont nous discuterons avec trois invités ce soir. Thierry Philippe, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'Institut Curie. L'Institut Curie, c'est un ensemble hospitalier. C'est aussi un centre de recherche et d'enseignement spécialisé dans le traitement des cancers et qui est situé donc à Paris.
À Paris, à Saint-Cloud et à Orsay, sur trois sites.
À vos côtés, Céline Lisraou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de la rédaction de Rose Magazine, un magazine associatif qui s'adresse aux femmes souffrant du cancer, qui dispense des informations sur les soins, sur le cancer, sur la recherche, mais aussi, bien sûr, des conseils sur la vie de tous les jours, des conseils beauté, psycho. Et c'est donc 2 numéros par an, gratuits, et on le trouve où ?
Alors, il sort, Rose Magazine sort donc à 200 000 exemplaires dans tous les centres de cancérologie de France, dont la Curie. Et on sort aussi depuis un mois Blue Magazine, qui est le petit frère de Rose, qui s'adresse aux hommes parce qu'ils nous l'ont demandé. Alors, qui sort que à 50 000 exemplaires, malheureusement, mais qui sortira à plus dans l'an prochain. Et qui est aussi distribué dans les centres de cancérologie en France.
Et puis, on trouve aussi beaucoup d'informations sur votre site internet. On mettra un lien sur la page du Grain à Moudre. Et enfin, Zoé Rollin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure agrégée de sciences sociales à l'université Paris 13. Vous êtes co-auteur avec Benjamin Derbez d'un livre qui vient de paraître aux éditions La Découverte, Sociologie du cancer. Alors, on va peut-être commencer effectivement avec cette information qui est tombée aujourd'hui, les dispositions annoncées par Marisol Touraine sur le droit à l'oubli. Thierry Philippe, est-ce que c'est satisfaisant? Ces annonces donc, qui s'appliqueront à 5 cancers et un délai de 10 ans au-delà duquel on peut ne plus déclarer sa maladie. Alors, à son banquier notamment.
Ce qui est satisfaisant d'abord, c'est la loi. Ça, c'est la suite de la loi. Première chose qui est satisfaisante, c'est que la loi a été votée, que les enfants et les adolescents qui ont eu un cancer avant 18 ans et qui vont avoir 5 ans sans maladie après la fin du traitement n'auront pas à déclarer leur maladie. Ça, c'est un. Je suis pédiatre, j'ai passé ma vie à réclamer ça. C'est un progrès absolument majeur. Ensuite, pour les personnes qui ont dépassé 18 ans, il y a eu un grand débat parlementaire qui s'est terminé par 10 ans. Ça veut dire que quel que soit le pronostic du cancer, si on est en rémission depuis 10 ans après la fin du traitement, on n'aura plus à discuter et à dire à son assureur qu'on a eu un cancer. Ce qui est paru aujourd'hui, c'est la suite. Il faut déjà remarquer que c'est assez rare dans notre cher pays que 2 mois ou 3 mois après une loi, il y ait déjà les décrets d'application. Donc c'est ça qui est paru aujourd'hui, c'est décret d'application. Et c'est qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas un enfant et quand on n'est pas à 10 ans, quand on est à 1 an, à 2 ans, à 3 ans. Et on réclame avec des associations depuis des années qu'on regarde en fonction du pronostic. Et de l'autre côté, il y a des assureurs qui font leur métier et qui ont besoin d'apprécier un risque. Donc eux, ils veulent que le risque soit apprécié par des scientifiques et qu'on puisse faire finalement des compromis. C'est ça qui est annoncé aujourd'hui. Ce n'est que le début. Ces 5 cancers, il y en a beaucoup plus qui vont arriver derrière. Et par exemple, pour le cancer de la thyroïde, 1 an après la fin du traitement, on pourra ne pas le déclarer à son assureur. Et c'est quelque chose qui est signé qui est validé par l'INCa, l'Institut National du Cancer, signé par le ministère et par les assureurs. Donc ça s'impose, et on s'est beaucoup battu avec ma voisine, pour qu'il y ait un recours possible pour les malades.
Justement, on va lui demander son avis sur ces mesures, Céline Lisraou.
D'abord, vous dites depuis des années, non, c'est pas depuis des années. Nous, cette thématique du droit à l'oubli, c'est-à-dire le droit de ne plus déclarer à son assureur qu'on était malade dans le cadre d'un emprunt, on a lancé cette thématique il y a 3 ans, je m'en souviens.
Vous êtes un peu jeune, mais moi, ça fait 30 ans qu'on le réclame.
Et donc, on a eu, c'est vrai, beaucoup d'échos. On a beaucoup travaillé là-dessus. Ça a été repris par le président de la République, puisque ça a été annoncé dans le cadre du plan cancer. Et après, on a eu de cesse de faire que ces promesses-là se transforment en actes. À Rose, on s'est vraiment emparé de cette problématique, parce qu'on est, avant d'être un journal, on est une association, il faut le savoir, c'est l'association Rose, qui a été créée par des malades de cancer. Et on a aussi un média qui sort à 200 000 exemplaires, donc qui a beaucoup d'échos. Et finalement, on s'est rendu compte, nous, en tant qu'association toute dédiée aux malades de cancer, que le principal problème aujourd'hui pour les malades de cancer, c'était de se projeter dans le futur. Et se projeter dans le futur sans pouvoir imaginer faire un emprunt, c'est absolument impossible. Donc on a vraiment pris ce problème à bras le corps, et on a eu beaucoup de chance parce que à Rose, on a une manière de travailler qui est très spéciale, c'est-à-dire qu'on n'essaie pas de diviser, on essaie vraiment de faire faire une structure qui permette d'intégrer toutes les bonnes volontés. Et c'est vrai qu'on a avancé de pair avec les médecins, avec le professeur Philippe, avec beaucoup d'oncologues qui ont signé nos différents appels. Et effectivement, la loi, c'est absolument essentiel. On passe d'un monde à un autre. C'est-à-dire que un petit jeune qui avait un cancer à 15 ans devait attendre 20 ans avant de pouvoir emprunter à des taux normaux. Aujourd'hui, si son cancer est guéri à 20 ans, il peut emprunter à 25 ans. C'est énorme. Ça va changer la vie de milliers de gens.
Et parmi vos moyens d'action, il y avait ce spot publicitaire notamment.
Très bonne nouvelle, Madame Perrin, c'est une guérison totale.
Vraiment ? Mon cancer est parti ?
Ah oui, il est parti. Là, il est allé à la banque, je crois.
La banque ?
Oui, pour le prêt de Madame Perrin, si j'étais vous, vu son historique médical, j'augmenterais les primes d'une bonne centaine de pourcents. Hein, qu'en dites-vous ?
Et après, il allait passer une tête chez votre assureur.
Ah, elle vous a demandé une assurance vie. Sérieux, c'est tellement elle.
L'association Rose combat toutes les injustices liées au cancer. Rejoignez-nous pour défendre les droits des malades du cancer. Adhérez sur rosemagazine.fr.
À l'initiative de Communication Sans Frontières.
Le regard de la sociologue peut-être sur ce phénomène pour reconstruire sa vie sociale, finalement pour presque redevenir un citoyen normal, ça passe par ce droit à l'oubli.
Oui, tout à fait, ça paraît très important compte tenu du fait que effectivement quand on pense cancer, on pense souvent directement maladie, c'est-à-dire phénomène biologique, etc. Or, effectivement, les conséquences sociales de la maladie sont extrêmement importants. Le cancer, ça entraîne une bifurcation biographique dans la vie des individus, c'est-à-dire que après le cancer, on n'est jamais comme avant son cancer. Et pour redevenir, comme vous le dites justement, un citoyen à part entière, il faut avoir accès effectivement à un certain nombre d'éléments. Et pour être un adulte, il faut avoir accès à un travail. On y reviendra, j'imagine, un petit peu plus tard dans l'émission sur les conséquences sociales du cancer sur la sphère travail. Mais également l'accès au crédit, c'est un élément important, puisque le taux de pauvreté notamment des patients qui ont été traités pour un cancer à un moment donné, même en rémission, il est particulièrement important aujourd'hui en France. Hein, on estime qu'il est 2 fois plus important à profession et catégorie socio-professionnelle égale. Donc effectivement, c'était un enjeu majeur.
Encore une question sur ce point, Thierry Philippe, vous expliquiez dans un article qu'on a aujourd'hui la preuve que ce droit à l'oubli ne fait pas peser de coûts supplémentaires pour le reste de la société. Donc on pense aux assureurs qui effectivement ont été un lobby ou un frein en tout cas à cette barrière des 10 ans. Et vous suggériez qu'on utilise mieux aujourd'hui l'outil des big data pour établir comme si, je ne sais pas, un registre national, vous parliez de ça, pour établir la preuve, on va dire, par les données que le droit à l'oubli n'est pas préjudiciable.
C'est globalement ce qu'on est en train de faire avec les assureurs, parce qu'au fond, il faut respecter le calcul du risque. Y a-t-il ou y a-t-il pas un risque ? Moi, ça fait 30 ans que je faisais la même chose que dans votre spot pour un lymphome de l'enfant qui s'appelle le lymphome de Burkitt. 12 mois après la fin, je leur disais, mais vous êtes guéri. Vous voulez que je le signe ? Oui, je le signe. Vous êtes guéri. Or, ces gamins ne pouvaient pas ensuite faire un emprunt pour acheter une voiture ou une maison. Donc ça, c'était stupide. Donc là, on est aussi, et c'est ce que disait aussi ma voisine, c'est que on est arrivé à un dialogue intelligent. finalement, entre les assureurs, la loi et les professionnels, de telle manière qu'on fasse bien. On ne demande pas aux assureurs d'assurer quelqu'un qui a 2 mois d'espérance de vie. Personne n'est stupide. Et d'ailleurs, il y a une question, c'est comment on l'annonce. Si la personne qui a une survie très très mauvaise veut aller à la banque, je pense qu'il y a aussi une question qui n'a pas été abordée jusqu'ici. C'est bien de dire oui, ou je vous assurerai pas, ou je vais vous mettre une surprime. Ça se dit peut-être avec un environnement et en faisant attention à la façon dont on le dit, parce que ça peut être aussi une condamnation.
Alors le cancer touche aujourd'hui à peu près un peu plus de 355 000 personnes par an en France. C'est un nombre élevé qui cache beaucoup de disparités. Zoé Rollin, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, je schématise un petit peu, mais être un homme, habiter dans le Nord-Pas-de-Calais, être d'un milieu social plutôt modeste et être âgé, statistiquement, on va avoir plus de probabilités de développer un cancer ?
Alors...
je me base sur vos travaux. Hein.
Disons que les inégalités sociales de santé, de toute manière, le cancer n'est pas atypique sur cette question-là. Elles sont particulièrement marquées en France. Hein. Ça, je pense que c'est important de le remettre en perspective. Hein. C'est-à-dire que très concrètement, à 35 ans, les hommes cadres supérieurs ont en moyenne 4 ans de plus que des ouvriers d'espérance de vie. D'accord. Donc ça, c'est dans le champ de l'ensemble des personnes qui vivent en France et pas spécialement sur le cancer. Sur la question du cancer, ces inégalités-là, elles sont particulièrement marquées également. Alors, les chiffres, on trouve des chiffres qui peuvent ne pas, enfin qui vont tous dans le même sens, mais qui sont relativement diversifiés tout de même. Mais on estime que on a 10 fois plus de risques de mourir du cancer aujourd'hui quand on est ouvrier que quand on est cadre. Et ces chiffres-là, ils s'observent aussi en fonction du niveau de diplôme. Donc, la conclusion importante qu'il faut retenir, c'est que effectivement, en fonction de sa profession, on a des risques de mourir du cancer qui sont différents. Et donc, les classes populaires dans leur ensemble, c'est-à-dire ouvriers, employés, sont particulièrement touchées. Et on a également des inégalités territoriales qui font des effets cocktails, si vous voulez, avec ces catégories socio-professionnelles et qui vont jouer un rôle particulièrement important. Effectivement, l'exemple du Nord-Pas-de-Calais, il est très bien choisi. L'incidence du cancer, elle est beaucoup plus importante dans cette région-là pour toute une série de facteurs. Effectivement, c'est une région qui a un lourd passé industriel. C'est une région où la part des ouvriers et des employés est beaucoup plus importante que dans le reste de la France. Et donc, c'est bien la question d'exposition individuelle et d'exposition collective. Et ça me paraît très important de le mettre en évidence. Exposition collective au sens de à quoi je vais être exposée, notamment dans ma sphère travail.
On va revenir un peu dans le détail des facteurs. Simplement, vous, en tant que praticien, Thierry Philippe, est-ce que vous avez aussi constaté chez vos patients des disparités ou en tout, des facteurs, alors là, tout facteur, hein, pas uniquement sociaux, mais effectivement de l'âge, du lieu de vie, et donc, voilà, parce qu'on a tendance un peu à penser que le cancer frappe toute la population, tout le monde. Est-ce que vous, dans votre pratique, vous constatez des disparités ?
Bien sûr. La première disparité, c'est l'âge. Hein, la moitié des cancers en France l'année dernière ont été diagnostiqués chez des personnes âgées de plus de 65 ans. Donc la première disparité, c'est l'âge. Ensuite, il y a l'environnement. Alors le problème, c'est quoi l'environnement ? Il y en a qui disent « c'est tout ce qui n'est pas moi ». Alors si c'est tout ce qui n'est pas moi, il y a quand même dans moi quelque chose qui est une inégalité, c'est la génétique qu'on reçoit de nos parents. Et il y en a qui ont de la chance, pas de chance, il y a à peu près 10% des cancers qui sont liés à la génétique, c'est-à-dire vraiment à quelque chose qui est transmis pour le cancer du sein, pour les cancers du côlon, pour certains cancers des yeux des enfants, etc. sont vraiment transmis par les parents. Ensuite, si l'environnement c'est tout ce qui n'est pas moi, c'est quoi ? C'est premièrement l'inégalité sociale, on vient d'en parler. C'est deuxièmement le travail, qui est une inégalité absolument majeure. Et là, il y a des produits chimiques, il y a des produits toxiques, il y a tout un tas de choses qui fait que le travail de nuit, tout un tas de choses qui sont maintenant bien connues, c'est une inégalité majeure en fonction du travail. Ensuite, il y a les comportements individuels. On va probablement y revenir, tabac, alcool, soleil, etc. Et puis, il y a une inégalité autre qui est finalement l'environnement stricto sensu. C'est-à-dire l'eau qu'on boit, c'est-à-dire l'air qu'on respire, c'est-à-dire le bruit qu'on entend, pas oublier le bruit, c'est-à-dire le sol sur lequel on marche, l'alimentation, le fait qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas de l'activité physique. Donc tout ça, c'est l'environnement au sens strict, et le grand débat, c'est de savoir si finalement c'est la loterie par le hasard, ou la loterie par mon comportement individuel, et j'espère qu'on va développer cette notion.
Je voulais juste demander, en attendant, à Céline Lisraou, là on essaye peut-être un peu de définir les populations qui peuvent être des populations à risque. Vous avez été atteinte d'un cancer du sein il y a plusieurs années, et vous nous disiez tout à l'heure que vous n'étiez dans aucun des facteurs à risque. Vous faisiez du sport, vous aviez une bonne alimentation, vous n'aviez pas de facteurs génétiques.
Oui, bah c'est exactement ce que disait le professeur Philippe, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans des questionnements sur effectivement l'impact de l'environnement. On vit pas hors sol, on vit dans un sol, dans un moment donné, dans une temporalité, sur un territoire. La grande loterie de la vie qui fait que bah il y a question de chance et de pas de chance. Alors c'est évidemment la grande question et la grande polémique qui a agité le monde du cancer cette année. C'est d'un côté, certains scientifiques disent que c'est vraiment une question de chance ou de pas de chance, d'autres qui disent que tout est déjà écrit dans l'environnement et dans les gènes. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus, mais c'est vrai que c'est en tout cas pour notre lectorat, qui est un lectorat de femmes malades, parce que je suis lue par des malades et des proches de malades, c'est toujours un grand étonnement et puis un grand sentiment d'injustice finalement. Vous avez souvent des messages de femmes qui disent j'ai 40 ans, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, je fume pas, je bois pas, je fais du sport et voilà, il y a un sentiment inhérent d'injustice au fait d'avoir un cancer qui est chez tous les malades de cancer, hein, tous, mais à un moment qui est particulièrement aigu et donc qui rend le vivre du cancer, le vécu du cancer encore plus violent pour les hommes et les femmes qui finalement ont l'impression qu'ils ont fait tout bon. On nous serine quand même depuis des années que le cancer c'est la faute au tabac, c'est la faute à l'alcool, c'est la faute, c'est multifactoriel, et puis finalement vous vous dites quoi que je fasse, ça m'est tombé dessus. Donc ça, c'est encore plus violent et plus difficile à vivre moralement et philosophiquement, j'ai envie de dire presque d'ailleurs, pour ces gens-là.
C'est justement assez difficile de trouver des chiffres sur la part des cancers qui sont totalement dus au hasard, en fait, et ceux qui sont dus soit à l'environnement, soit à des comportements. Est-ce que vous, Thierry Philippe, vous avez un chiffre, à peu près un ordre de grandeur, quel est le pourcentage des cancers qui sont dus totalement au hasard ?
Il faut prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire... est-ce que la prévention, ça sert à quelque chose? Alors, il y a deux préventions. Est-ce que ça sert à quelque chose de pas fumer? Moi, je dis que si demain matin, tous les jeunes qui nous écoutent, qui ont moins de 20 ans, se disent « je ne fumerai pas de toute ma vie », on sait que la proportion des cancers diminuera de 40% dans les 50 ans qui viennent. Donc ça ne se discute pas. Deuxièmement, l'alcool, pour un certain nombre de cancers digestifs, ça ne se discute pas. La combinaison des deux, ça ne se discute pas. Il n'y a qu'à regarder le nombre de mélanomes en Australie pour savoir qu'il y a bien un rôle entre certains cancers de la peau et le soleil. Donc tout ça ne se discute pas, et on peut effectivement, par son comportement individuel, il y a plus que ça. On a démontré aujourd'hui qu'une femme qui a un cancer du sein et qui fait de l'activité physique, pas champion olympique, mais de l'activité civique régulière pendant la semaine, va avoir une meilleure survie que ceux qui n'en font pas. Il est démontré, pour cette population dont je parlais tout à l'heure, qui vieillit, que ceux qui, en vieillissant, font de l'activité physique vont diminuer significativement leur risque de cancer. Donc oui, on peut éviter le cancer. Maintenant, il y aura des gens, comme madame, qui n'ont aucun facteur connu, parce qu'on connaît des gènes du cancer du sein, on ne les connaît pas forcément tous. Par ailleurs, il y a des gens donc qui ne fument, qui auraient fumé toute leur vie et qui ne feront pas de cancer. Donc là, il y a une part dite de hasard.
Est-ce qu'on a une idée de la proportion de cette part ? Il y a une étude qui était parue cette année dans la revue Science qui a provoqué le débat, puisque les chercheurs affirmaient que la part de cancer dû vraiment au hasard était à peu près à 2/3.
Moi, je fait partie de ceux qui d'abord discutent la méthodologie de cet article et qui ensuite pensent que, finalement, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'une division cellulaire qui tourne mal entraîne le cancer. On est tous d'accord, c'est une division cellulaire qui tourne mal. Après, ils font tourner un modèle mathématique très compliqué pour dire, mais c'est pas possible, puisque si vous prenez le tabac, l'alcool et tout ce que je vous ai dit, ça fait 40% des cancers. Et quand même, une personne qui ne fume pas ne fait pas de cancer. Moi, je suis cancérologue, je soigne des enfants, mais j'ai aussi soigné des adultes. Quand j'ai commencé ma carrière, malheureusement, ça fait un certain temps. J'ai commencé ma carrière, les cancers du poumon, ils avaient 60, 65 ans. Aujourd'hui, ils ont 35 ans. Et on voyait surtout des hommes. Aujourd'hui, c'est des femmes qui ont commencé à fumer à 14 ans. J'espère qu'il y en a qui nous écoutent. Je leur dis attention, parce que c'est des jeunes femmes qui ont des petits-enfants. Et c'est trop tard pour jeter la cigarette à ce moment-là. Donc, ne disons pas qu'il n'y a pas de possibilité de prévenir le cancer. Je crois que c'est faux. Il y a un autre article qui est paru dans une revue prestigieuse Nature qui dit à peu près l'inverse. Je crois que le hasard existe. Et il y a un livre d'un prix Nobel français qui s'appelle « Le hasard et la nécessité ». Oui, il faut qu'on meure. Il faut que la cellule meure. Et effectivement, il y a un nombre de divisions cellulaires. Et à un moment donné, ça peut très bien être le hasard qui explique que chez quelqu'un qui a fumé toute sa vie, eh bien, le tabac qui arrive, eh ben, comme prévu, si j'ose dire, ça fasse un cancer. Et que de temps en temps, il y en ait un certain nombre qui soient capables de l'éviter parce qu'on a des gènes qu'on appelle des oncogènes, qui sont à l'intérieur de nos cellules, et ces gènes sont abîmés au fur et à mesure de la vie, et il y en a qui ont la chance que ça s'abîme moins que d'autres.
Zoé Rollin, l'enjeu sur cette question, c'est de savoir la part qu'on va accorder aux populations à risque, et puis surtout, comme le disait Thierry Philippe, aux politiques de prévention.
Bien sûr. Alors déjà, ce que je voulais dire, c'est que cette étude là à laquelle vous fassiez référence tout à l'heure, là, de Thomas Setti et Wolgenstein, elle a été extrêmement critiquée. Donc, comme le disait Thierry Philippe sur la question de la méthodologie, et donc je vous renvoie à l'excellente réponse d'Anité Beaumoni, qui est une grande chercheure sur ces questions-là, hein, et qui avait clairement montré par trois arguments assez forts, hein, que c'était quand même curieux que tout soit dû au hasard. Compte tenu des proportions, enfin des comparaisons qu'on peut faire entre la survenue et la mortalité par cancer chez les cadres et chez les ouvriers. Donc pour rappel, hein, 10 fois plus d'ouvriers qui meurent du cancer que les cadres. Sur la question de la prévention, donc évidemment...
Les ouvriers fument plus, etc. quoi.
Oui, alors, voilà, donc avant de parler de la prévention, du coup, donc effectivement, je contredis absolument pas ce qui vient d'être dit, hein, je vais dans le même sens. Il y a effectivement des comportements individuels qui sont à risque et on les connaît bien, on les entend régulièrement, et c'est d'ailleurs très bien qu'on les entende. Par contre, ce qu'on met toujours de côté, c'est la question des expositions collectives. C'est-à-dire que autant on va faire des campagnes de prévention massive sur la cigarette, l'alcool, etc., autant on voit pas dans les rues des campagnes de prévention massive sur l'exposition à l'amiante, sur l'exposition à des pesticides, etc. Donc, il y a une question effectivement politique majeure qui est prévention pour qui et contre qui. C'est-à-dire, d'accord, faire de la prévention individuelle, c'est très bien, mais à partir de quand est-ce qu'on fait pression sur des industriels qui, à un moment donné, sont clairement en faute, hein, puisqu'ils exposent leurs salariés à des cancérogènes majeurs, hein, qui sont reconnus cancérogènes avérés par le Centre international de recherche sur le cancer, par le CIRC. Donc ça, c'est le premier problème. Et puis la question, c'est la réception de la prévention. C'est-à-dire que la prévention, elle n'est pas reçue de la même manière selon les individus, et cette réception différenciée, elle est socialement différenciée. C'est-à-dire que, et ça c'est quelque chose qu'on a cherché avec Benjamin Derbez à montrer dans le Repère, en faisant une synthèse de la littérature en fait existante, c'est qu'on a de nombreux travaux, notamment ceux de Patrick Perretti-Vatel, qui montrent clairement que en fait, qui s'empare le mieux des messages de prévention? Ceux qui sont déjà les moins à risque. C'est-à-dire que clairement, quand on est un cadre diplômé avec un capital culturel élevé, on a une conduite de vie qui nous met moins en danger par rapport au risque de cancer en termes de comportement individuel, mais on va recevoir et s'emparer de ces messages de prévention beaucoup plus. Et donc du coup, juste pour finir, le problème de la prévention sur des comportements individuels, c'est qu'elle peut se révéler paradoxalement contre-productive et devenir un accélérateur des inégalités sociales.
Une des inégalités également, c'est l'accès à l'information. Céline Israou, vous expliquez que quand vous avez connu votre cancer, vous étiez journaliste et vous aviez la capacité à aller poser les questions, à aller chercher l'information, et que à ce moment-là, est-ce que vous avez dit que si vous aviez cette capacité, d'autres peut-être ne l'avaient pas?
Oui, c'était, alors je vous parle d'il y a 6 ans, hein, je parle pas de Mathusalem quand même. Effectivement, je me suis retrouvée en tant que journaliste avec des facilités pour avoir des réponses à la multiplicité de questions que je me posais et que posent aujourd'hui tous les jours nos lectrices. Alors c'est des questions sur la vie quotidienne, effectivement, de malades de cancer, mais aussi des questions importantes sur des choix thérapeutiques, c'est-à-dire l'hormonothérapie. On propose une hormonothérapie, j'ai pas envie de la faire, qu'est-ce que je risque? Est-ce que vraiment j'ai besoin de ça? Est-ce que j'ai besoin de me faire reconstruire tout de suite après avoir subi une mastectomie? Enfin, c'est des questions. Vous savez, je dis toujours, le cancer, c'est comme commencer un long voyage qui va durer 4 à 10 ans de votre vie sans aucune valise. C'est-à-dire que vous n'avez rien, vous n'avez aucune information et vous êtes jeté dans la nature. Donc vraiment, l'idée de Rose Magazine, c'est ça. C'est-à-dire, on essaie de donner toutes les réponses et une vraie boîte à outils à nos lecteurs et à nos lectrices pour qu'à chaque moment de leur vie de malade en tant que malade, c'est-à-dire face à un médecin à qui il faut poser les bonnes questions, leur vie de malade dans l'entreprise, leur vie de malade dans leur vie de famille, dans leur vie amicale, on essaie de leur donner des réponses et une boîte à outils pour que ça leur permette d'avancer vraiment et de continuer à vivre.
Thierry Philippe, vous vouliez réagir ?
Oui, juste pour dire que quand même on a fait beaucoup de progrès grâce au plan cancer successif. La consultation d'annonce, ça existe aujourd'hui. On sait qu'il faut répéter plusieurs fois les choses. Enfin, par rapport à il y a 10 ou 15 ans, il y a eu des progrès énormes sur la façon dont on annonce le cancer. Ensuite, pour ce qui concerne l'accès à l'innovation, il y a des consentements éclairés. Là aussi, on a fait beaucoup de progrès, me semble-t-il. Il y a beaucoup de gens, y compris à Curie, qui travaillent sur la décision partagée, c'est-à-dire comment justement informer une femme pour savoir si oui ou non il faut faire le traitement hormonal, si oui ou non il faut faire tel ou tel traitement, par exemple dans le cancer du sein. Et puis enfin, vous avez les outils. Ça faisait d'ailleurs partie de la journée de l'INCa aujourd'hui. Il y avait une session entière
L'INCa,
là-dessus.
L'INCa, donc l'Institut national
du cancer. On est en train quand même de transformer avec le téléphone portable. Et on fait à Curie ce qu'on appelle mycurie.fr, c'est-à-dire qu'on va donner sur le téléphone portable les informations non pas générales, parce que ça, on peut les trouver aujourd'hui sur n'importe quel site internet, mais Madame Dupont, qui a son cancer du sein, elle saura quel examen elle va avoir, qu'est-ce que c'est que cet examen, etc. Et on est en train de transformer la relation entre le médecin et le malade, parce que le malade n'est plus, même avec les inégalités sociales aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de malades qui sont informés, qui posent des questions et qui n'acceptent pas un truc qui leur tombe dessus du médecin, parce qu'il n'a pas forcément la vérité, il faut qu'il l'explique et il faut qu'il fasse comprendre.
Zoé Rollin.
Oui, je voulais rajouter une petite chose parce que finalement, la question aussi des inégalités sociales de santé, c'est sur l'accès aux soins aussi, hein, et le moment où on est diagnostiqué. C'est-à-dire que tout ce que avance Thierry Philippe ici, c'est très important à partir du moment où on est intégré dans l'institution hospitalière. C'est-à-dire là, effectivement, tout ceci va être moteur peut-être de réduction d'inégalités sociales. Mais ce qu'il faut pas oublier aussi sur les inégalités sociales de santé, c'est que il y a un rapport social aussi à la maladie et à ces institutions-là. C'est-à-dire que les populations les plus précaires, par exemple, et ça, il y a des très bons travaux comme celui d'Antoine Roth qui le montre très bien, quand on est précaire, aussi, on va mettre beaucoup plus de temps à se rendre dans l'institution pour être diagnostiqué.
Et donc être diagnostiqué,
voilà,
souvent tard.
À constater que tel symptôme peut-être être inquiétant, tout simplement parce que, notamment quand on a été ouvrier, on a un rapport au corps qui est différent. On a eu l'habitude de souffrir au quotidien, chose que les cadres, par exemple, ne vivent pas. Ils souffrent psychiquement, mais pas forcément sur le plan physique. Donc, du coup, ça, c'est aussi quelque chose qui est peut-être pas assez abordé et qui nourrit aussi la reproduction des inégalités sociales de santé.
France Culture, du grain à moudre.
Mélanie Chalandon.
Sommes-nous inégaux face au cancer ? C'est la question que nous posons ce soir avec Zoé Rollin, Céline Lisraou et Thierry Philippe. Thierry Philippe, vous vouliez réagir
sur un point ? Oui, simplement dire que, par exemple, il y a une autre inégalité auquel on ne pense pas, c'est les sourds, qui ont des difficultés, évidemment, pour comprendre. Et nous avons à Curie un infirmier qui est lui-même sourd. Et on est en train de constituer une équipe mobile pour justement être capable d'expliquer à un sourd, en langage des sourds, ce qui se passe. Donc il y a des tas d'infirmités qui ne sont pas forcément visibles, ça se voit pas quand les gens arrivent, et qui fait que quelqu'un ne va pas comprendre. Donc la façon d'expliquer, moi je vous ai expliqué que j'étais pédiatre, comment on explique. Heureusement, ça se fait pratiquement plus aujourd'hui, mais il y a 20 ans, l'ostéosarcome, ça se guérissait avec des amputations. Comment on expliquait à un gamin de 2 ans et demi qu'on allait lui couper la jambe ? Figurez-vous qu'avec de la pâte à modeler, ça s'explique assez bien. Donc il y a des tas de choses comme ça, sur lesquelles finalement dans les facultés de médecine, on n'est pas très instruit. Moi j'ai fait régulièrement à Lyon depuis des années des cours sur Breaking Bad News, annoncer une mauvaise nouvelle. Aux États-Unis, ils ont 15 jours de cours là-dessus. À Lyon, ils en ont 2 heures parce que je fais l'effort de faire un cours qui n'est pas obligatoire. Donc, c'est très important, effectivement. Dans les inégalités, il y a aussi la sélection des médecins qui est faite, alors maintenant sur des QCM, c'est encore pire, d'accord ? Ce qui ne montre absolument pas la capacité de quelqu'un à être dans une relation avec un malade, ce qui est, ce métier n'est pas un métier uniquement technique, c'est un métier relationnel.
Céline Israou, les inégalités, elles se vivent aussi en fonction du lieu où on vit. On ne va pas avoir accès au même centre de soins, l'inégalité territoriale.
Je pense que l'inégalité la plus importante en matière de soins est une inégalité territoriale. Alors il faut quand même rappeler, toute proportion gardée, qu'on vit quand même dans un des pays au monde où on est le mieux soigné, sans bourse déliée. C'est-à-dire que vous entrez à l'hôpital public ou dans une clinique, normalement vous sortez de l'épreuve du cancer avec une opération, une reconstruction, des chimiothérapies, des hormonothérapies, tout ça coûte très très cher, sans avoir besoin d'avancer les frais.
Alors il y a des études, des témoignages qui montrent que non, au contraire, enfin c'était une étude de la Ligue contre le cancer qui disait qu'à peu près 47% des personnes interrogées, et je pense que ça concernait le cancer du sein, disaient qu'elles avaient eu des frais cachés.
Oui,
des restes à charge.
Le reste à charge, il était de l'ordre, j'ai pas revu cette étude, était de l'ordre de 400 euros.
Mais il y a 7 millions de pauvres en France et c'est vrai que 400 euros pour certains, c'est trop. Oui. Et c'est même impossible.
Mais on se retrouve avec déjà une solidarité qui est importante. Moi, je vois, on est une association et il suffit qu'il y en ait une qui dise « je ne peux pas m'acheter mon soutien-gorge de contention » pour qu'il y ait 50 personnes qui lui envoient des soutiens-gorge.
Et la Ligue nationale contre le cancer, toutes les ligues départementales font des aides financières. Il faut que les malades le sachent quand il y a une difficulté financière.
Vous voulez dire qu'à côté de la sécurité sociale, il y a d'autres
associations
à mobiliser.
Qui font des aides, et en particulier à la Ligue nationale.
Est-ce que vous pouvez nous préciser quand même un peu sur un point, ces frais cachés, comme on dit, ou ces restes à charge, est-ce qu'on parle parfois de soins de confort, c'est un peu difficile à entendre, soins de confort pour les vitamines, les compléments alimentaires, les prothèses, etc.
On appelle ça des soins de support, voilà. Les soins de support, ce sont tous les soins en cancérologie qui vous aident à supporter l'épreuve du cancer. Et l'épreuve de la chimiothérapie essentiellement. Il y a une association qui s'appelle l'AFSOS, qui est l'association française des soins de support, ce sont des cancérologues qui portent ça. Et il y a un certain nombre effectivement de médecines qui sont par exemple de l'acupuncture ou qui sont de l'homéopathie qui vous aident à mieux traverser cette épreuve. Alors évidemment, quand c'est dans le cadre des hôpitaux, c'est le cas à Curie par exemple, et dans le cadre d'un centre où c'est pris en charge, effectivement, le malade n'a pas avancé les frais et n'a pas à sortir un centime. En revanche, dans certains endroits, et on en revient à l'inégalité principale qui est territoriale, vous êtes très bien soigné sans, en tout cas, avoir à investir dans des soins lourds. On ne paie pas son opération en France. Vous êtes en Espagne, par exemple, tout bêtement, c'est quand même, on n'est pas très loin, c'est un pays limitrophe. En Espagne, si vous voulez être opéré dans les temps, c'est-à-dire pas attendre un an et demi pour être opéré, vous êtes obligé de payer de votre poche, parce qu'aujourd'hui, le système public ne peut plus opérer les gens. Donc quand on parle quand même d'investissement, on n'est pas sur 500 euros là, on est sur 5000 euros, on n'est pas du tout dans les mêmes coûts. Par ailleurs, quand en France vous avez la chance d'être soigné dans un centre unicancer par exemple ou dans un grand hôpital, vous avez absolument tous ces soins de support qui vous sont proposés, qui vous sont prodigués avec souvent beaucoup de professionnalisme et de gentillesse, et c'est une vraie chance, voilà. Mais l'inégalité est territoriale. Il est bien évident que si vous êtes dans un petit hôpital de province et pas à Curie ou pas dans un grand centre unicancer, vous n'aurez pas la même offre, on va dire, en matière de soins de support. Et si l'offre, vous l'avez en ville, mais dès lors qu'elle est en ville, elle n'est pas nécessairement remboursée.
Du point de vue financier, Zoé Rollin, aujourd'hui en France, quel que soit ses revenus, on peut être soigné de la même manière du cancer.
Bon, sur la question du soin, en fait, se jouent effectivement les inégalités sociales dont on a parlé et les inégalités territoriales, comme vient de l'expliquer Céline Israou. Après, sur les inégalités territoriales, il faut aussi prendre en compte que se cachent derrière les inégalités territoriales aussi des inégalités sociales. C'est-à-dire qu'il faut, effectivement, il y a la question de l'offre de soins, mais il y a la question aussi de quel diagnostic territorial je peux faire sur la région concernée, quelle est la population, par exemple, qui la compose, quelle est l'histoire aussi du lieu, etc. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le Nord-Pas-de-Calais. Mais ce qui me semble important aussi à rappeler, c'est qu'il y a le soin, effectivement, et puis il y a l'après-maladie. Et ça, c'est vraiment important de l'évoquer parce que après le cancer, comment est-ce qu'on fait pour redevenir une personne à part entière? C'est aussi en se réinvestissement, en réintégrant son métier d'origine, en ayant accès au crédit, on en a parlé, etc. Et donc sur la question du travail, là, on est sur une situation relativement dramatique. Hein,
puisque, alors les chiffres sont assez effectivement dramatiques. Je crois que c'est à peu près une personne sur trois. Deux ans après le diagnostic, perd son travail, hein, c'est ça.
Le taux d'emploi, en fait, concrètement, passe de 80% à la louche, 82% très exactement, à 61% après la maladie. Donc concrètement, on a une perte sèche qui est quand même assez impressionnante. Faut pas oublier que les personnes qui étaient déjà en difficulté avant la maladie sont encore plus vulnérables après. Et avec des personnes auxquelles, avec une histoire de double peine en fait, et avec des personnes auxquelles on pense pas forcément. C'est-à-dire que par exemple, les indépendants, donc ceux qui sont par exemple petits chefs d'entreprise, etc., ceux-là se voient quand même largement impactés par la maladie. Pendant les soins, puisque c'est beaucoup plus compliqué de prendre un arrêt maladie quand on est petit chef d'entreprise, etc. Et après la maladie, il y a toute la question de je serai pas remplacée, etc. Donc
alors, quand vous en souvenez certainement, quand la ministre déléguée à la famille Dominique Bertinotti avait rendu public son cancer dans une tribune, elle avait eu cette phrase. Elle avait dit annoncer sa maladie pour que les employeurs comprennent que la mise en congé longue maladie n'est pas forcément la meilleure des solutions. Et ça avait susciter un tollé de la part de beaucoup de femmes qui souffraient du même cancer, de dire que certaines n'ont pas le choix et donc aujourd'hui continuent à travailler, c'est un luxe. Céline Israou.
Alors, je pense que la phrase de Dominique Bertinotti a été mal comprise. Je vois que dans la communauté des malades et dans notre association, ça a été très diversement apprécié. Je pense que ce qu'elle voulait dire, c'est que chacun est libre par rapport à son cancer d'agir comme il veut. On n'a pas à donner de points de bonne cancéreuse ou de mauvaise cancéreuse. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes traitements. Il y a des traitements qui sont plus ou moins lourds. Tout le monde n'a pas la même manière de vivre des traitements. Certaines personnes ont des traitements et vont à l'hôpital à vélo. Et puis d'autres personnes dans les mêmes traitements et sont chez elles à souffrir mille morts et elles font pas des histoires, elles souffrent vraiment mille morts. Donc déjà, on est tout inégal par rapport à la réaction, par rapport à la chimiothérapie et par rapport à la douleur. Mais ce que voulait dire Dominique Bertinotti, c'est que finalement, il faut laisser au malade la liberté d'agir comme il a envie d'agir vis-à-vis de ce cancer, de le dire, de pas le dire, de travailler, de pas travailler. Et ça, c'est important. Moi, je voulais vraiment saluer, je l'ai salué en son temps, mais je recommence l'attitude de Dominique Bertinotti. C'est la seule femme politique, c'est le seul homme politique à avoir dit qu'elle a eu un cancer. Quand on voit le nombre de cancers en France et l'âge moyen de notre personnel politique, à mon avis, c'est pas la seule à avoir été malade. Elle a été extrêmement courageuse, elle a libéré la parole et elle a fait que les femmes se sont dit, finalement, et les hommes aussi se sont dit, finalement, je suis libre vis-à-vis de cette maladie d'en faire ce que je veux.
Le tabou du cancer dans le milieu de l'entreprise, c'est le prochain chantier. Zoé Rollin.
Oui, moi je pense que c'est un chantier important et pas que dans le secteur de l'entreprise, en fait, dans tous les secteurs qui sont finalement à côté du soin. C'est-à-dire que je pense à l'école aussi notamment. À l'école, au travail, le cancer, c'est toujours une source de stigmatisation. C'est-à-dire que à partir du moment, alors les patients se posent majoritairement la question de dire ou non la maladie. Et à partir du moment où la maladie est dite, il y a des conséquences très fortes sur les représentations des personnes qui nous entourent, qui sont encore très négatives sur la maladie. La plupart des gens associent encore cancer et mort, alors malgré les progrès médicaux faramineux des 50 dernières années. Et du coup, ces représentations-là jouent un rôle et font qu'on perçoit finalement notre collègue, notre camarade, comme quelqu'un qui est dans une situation totalement anormale, entre guillemets.
C'est la fin de cette émission. Je suis désolée pour les dernières réactions. Merci, en tout cas, merci à tous les trois d'y avoir participé. Thierry Philippe, président de l'Institut Curie, Céline Lisraou, directrice de l'association Rose et du magazine Rose à destination des femmes souffrant du cancer. Zoé Rollin, professeure agrégée de sciences sociales à Paris 13. Les références de votre ouvrage, Sociologie du cancer, paru à la découverte en janvier sont sur notre site. Commentaires, réécoute, podcast, c'est sur franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Du Grain à Moudre, une émission préparée par Fanny Richer, Céline Leclerc, Cyril Baer et Hugo Florent. À la réalisation, Jean-Christophe Francis. À la prise de son ce soir, Jean-Guilain Meige. Demain, c'est Hervé Gardette que vous retrouverez au micro du Grain à Moudre. Peut-on se passer du clientélisme? C'est la question que nous poserons. En attendant, il est 19h sur France Culture et tout de suite, c'est bonsoir.
Bonsoir Mélanie.
Ici Ping-Pong, on est très bien. Non, moi j'aime beaucoup. On déhousse les raquettes.